Malachie chapitre 3 versets 8 et 10. L'homme dérobera-t-il Dieu? Car vous me dérobez et vous dites, en quoi t'avons-nous dérobé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, et qu'il y ait de la provision dans ma maison. Et éprouvez-moi en cela, dit l'Éternel des armées, si je ne vous ouvre pas les écluses du ciel, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction sans mesure. Bonjour à tous frères et sœurs, bonjour et bon sabbat. Que le Seigneur vous et nous bénisse en ce moment de méditation, c'est ma prière. J'ai intitulé la méditation d'aujourd'hui « La dîme de la vérité ». La dîme de la vérité. C'est un message que j'ai eu à cœur depuis de nombreuses années, on ne va pas se cacher, mais je me suis beaucoup cherché, plutôt je me suis beaucoup sondé pour être sûr que je le présente avec les bons motifs pour que ce soit vraiment la parole de Dieu et pas simplement une excuse. La dîme de la vérité, vous me direz, c'est un peu étrange comme titre, mais nous allons y venir. Mais avant que nous y venions, à travers notre méditation, j'aimerais, avant de parler du sujet de la dîme, présenter deux clauses préalables d'exonération. Pardonnez-moi le langage un peu abusif, mais la première clause, c'est celle-ci. Ceci-là, ce n'est pas une sollicitation financière, c'est une étude biblique. Donc ça, c'est la première clause que je tenais à mettre en avant. Ce que j'aimerais, c'est que nous étudions la parole de Dieu, que nous étudions les principes de la parole de Dieu, et nous étudions la parole de Dieu elle-même sur ce sujet-là de la dîme. Ce n'est pas une sollicitation financière individuelle. Deuxième clause d'exonération, c'est pour la première, c'était pour moi, la mienne, et la deuxième, c'est pour Dieu. La deuxième clause, c'est que Dieu n'a pas besoin de notre argent. Pour cela, nous nous tournons, pour justifier ces paroles, cette affirmation, vers les paroles du psaume 50. Le 50e psaume, versets 10 à 12. Le psaume 50, versets 10 à 12, où Dieu lui-même nous dit ceci. Car tous les animaux des forêts sont à moi, les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs est en mon pouvoir. Si j'avais faim, je ne t'en dirais rien, car le monde, avec tout ce qu'il renferme, est à moi. Que dit Dieu par rapport à son besoin, par rapport à ce qu'il a, et ce que nous avons, et son besoin vis-à-vis de ce que nous possédons? Dieu dit, j'ai tout, tout est à moi. Je n'ai pas besoin de ce que tu me donnes. Vous comprenez? Dieu n'a pas besoin de notre argent. C'est important de comprendre cela au fur et à mesure que nous progressons ici. J'aime bien comme c'est marqué dans la Bible King James, le langage est assez imagé, disons. Et ça aide un peu mieux à comprendre. Il y a marqué, car tous les animaux des forêts sont à moi et les bêtes sur 1000 collines. Donc tout le bétail, c'est à lui. J'aime bien ce langage. C'est pas, les montagnes, c'est un peu haut, c'est pour ça. Collines, c'est un peu plus bas. C'est là où il y a toutes les pâtures, toutes les brebis, toutes les vaches, tous les chevaux, ils sont tous à Dieu. Et ça coûte de l'argent. Mais Dieu, il n'a pas besoin de notre argent. Et plus encore, pour corroborer ces pensées-là, qui nous sont exprimées dans ce psaume 50, j'aimerais lire la citation suivante qui se trouve dans Conseil à l'Église, à la page 221 et au paragraphe 2. où nous avons l'élargissement de ce passage que nous venons de lire. Je lis. La cause de Dieu ne dépend pas de l'homme. Littéralement, l'avancement de la cause de Dieu ne dépend pas de l'homme. Le Seigneur aurait pu envoyer directement du ciel les moyens financiers nécessaires si, dans sa providence, il avait vu que c'était pour nous la meilleure méthode. Vous comprenez ? Si Dieu avait jugé bon dans sa sainte sa sagesse infinie, avait jugé que ce serait là la meilleure méthode pour nous et pour le monde, d'envoyer directement du ciel les moyens financiers, pour sa cause, il l'aurait fait. Vous comprenez ? Parce qu'il vient de dire, tout est à moi. Qu'avons-nous lu ? Car le monde, avec tout ce qu'il renferme, est à moi. Donc Dieu, il n'est pas en manque de biens, il n'a pas de besoin financier, parce que c'est lui qui est la source de toute la finance, pour ainsi dire. C'est lui qui possède toutes les choses à travers sur la base desquelles on fait de l'argent. L'or et l'argent, il est à lui. Comprenez? Donc s'il avait vu que dans sa providence et sa sagesse que c'était la meilleure méthode pour nous, il aurait lui-même fourni les biens financiers pour l'avancement de sa cause. Il aurait pu charger les anges de faire connaître la vérité au monde entier, sans le secours humain. Donc, ces trois anges d'Apocalypse auraient pu être des anges littéraux, si Dieu avait vu que dans sa sagesse, c'était la meilleure méthode. Mais de toute évidence, ce n'était pas la meilleure. Pas dans notre intérêt, du moins. Vous comprenez ? Je continue. Il aurait pu écrire la vérité dans l'azur du ciel et le laisser faire connaître au monde ses exigences. Laisser le ciel faire connaître au monde les exigences de Dieu plutôt que d'avoir recours à des êtres humains pécheurs et imparfaits. Il aurait pu. S'il avait jugé que c'était la meilleure méthode, il l'aurait pu. Il l'aurait fait. Dieu n'a pas besoin de notre or ni de notre argent. Il dit, deux points, tous les animaux des forêts sont à moi et les bêtes sur 1000 collines. Si j'avais faim, je ne t'en dirais rien, car le monde avec tout ce qu'il renferme est à moi. Donc Dieu, je reviens, n'a pas besoin de notre or ni de notre argent. Quelle que soit la nécessité de notre contribution dans l'avancement de la cause de Dieu, c'est lui, Dieu, qui l'a délibérément ordonné pour notre bien. Vous comprenez ? Ça veut dire que le fait que la cause de Dieu ait besoin, que les circonstances soient telles que la cause de Dieu nécessite notre contribution, quelle qu'elle soit, c'est Dieu qui orchestre cela. Pourquoi ? Pour notre bien. Notre bien. Il nous a honorés en nous appelant à être ses collaborateurs. Il a ordonné qu'il y ait une nécessité de la coopération des hommes afin qu'ils puissent maintenir leur bienveillance par un exercice constant. Vous savez, ce qu'on n'utilise pas, on le perd, comme on dit. Comme ils disent en anglais, « If you don't use it, you lose it ». Et donc, si nous n'utilisons pas notre bienveillance comme un muscle, tac, tac, eh bien, qu'arrive-t-il à notre bienveillance ? Nous la perdons. Donc, qu'arrive-t-il à notre caractère ? Si nous n'exerçons pas ce trait de caractère divin, nous le perdons. Et donc, Dieu, dans sa grande sagesse et sa sainte providence, a ordonné que les circonstances soient sans cesse telles qu'il y ait une nécessité de notre contribution. Vous comprenez ? Non pas parce qu'il a besoin, mais parce que nous avons besoin. C'est ce que je lisais juste avant. Quelle que soit la nécessité de notre contribution dans l'avancement de la cause de Dieu, c'est lui, Dieu, qui l'a délibérément ordonné ou orchestré pour notre bien. Donc Dieu, il nous demande de contribuer à sa cause, non pas parce qu'il a besoin, parce que l'or et l'argent sont à lui, mais parce que nous avons besoin de maintenir notre bienveillance par un exercice constant. C'est-à-dire que si notre bienveillance n'a pas un exercice constant, nous ne pouvons pas la maintenir, à savoir nous allons la perdre. Et vu que c'est une caractéristique du caractère de Dieu, ça veut dire que nous allons perdre une caractéristique de Dieu. Et ce que nous perdons qui est semblable à Dieu, nous ne pouvons que le remplacer par autre chose qui est contraire à son caractère. Parce que c'est la manière dont toute la nature fonctionne, tout particulièrement moralement. Donc ça, c'était la deuxième clause qui nous a lancé, je devrais dire, dans notre étude, d'ores et déjà, sur la dîme. Ce paragraphe faisait allusion tout particulièrement à la dîme et aux offrandes, mais ici on va se concentrer tout particulièrement sur la dîme. Et avant de faire cela, d'aller dans le vif du sujet d'aujourd'hui, nous voulons nous attarder sur le principe de la dîme, tout d'abord. Donc, pardonnez-moi, ce n'est pas voulu comme une insulte à notre connaissance, mais c'est important de revenir sur les bases fondamentales de ce sujet de la dîme, afin que nous ayons une base sur laquelle nous pouvons ensuite construire sans avoir ensuite besoin de détruire ce que nous avons édifié dans Deutéronome chapitre 14. Deutéronome chapitre 14. Et versets 22 à 23. Donc vous avez ici l'un des passages clés et vraiment l'un des premiers passages clés au sujet de la dîme et du principe de la dîme. Je lis Deutéronome chapitre 14, verset 22. Tu ne manqueras point de donner la dîme de tout le produit de ce que tu auras semé, de ce qui sortira de ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi pour y faire habiter son nom, la dîme de ton froment, de ton vin, de ton huile et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Donc ici, c'est dans le contexte de personnes qui vivaient de leur agriculture. Donc de nos jours, ça a un peu changé. Mais nous pouvons tirer le principe de cette ordonnance de Dieu perpétuelle sur la dîme. Nous voyons ici que la dîme, c'est le dixième. C'est ce que cela veut dire tout simplement dans l'hébreu et dans le français, le mot dîme, c'est également le sens, le dixième. Donc, tout ce que nous recevons en plus de ce que nous possédons déjà, c'est cela le produit, ou comme nous allons le voir après, l'accroissement. Comme vous le voyez ici, le produit de tout ce que tu auras semé. Donc, nous semons, et tout ce qui est produit par cela, tout ce qui vient à exister qui n'existait pas et qu'ensuite nous prenons et nous le ramenons dans nos greniers, pour ainsi dire, et que nous amassons, que nous obtenons, que nous n'avions pas, tout ce qui est le produit de ce que nous avons semé, l'accroissement, c'est cela le produit. Et la dîme de tout le produit s'est assimilée au dixième de tout notre revenu, pour parler en termes concrets et clairs et modernes. Je répète, la dîme de tout le produit, tel que c'est exprimé ici au verset 22, s'est assimilée et équivalent au dixième de tout notre revenu. C'est cela, la dîme. Allons ici dans Proverbes chapitre 3, verset 9. Verset 9 à 10. Où Dieu nous dit: honore l'Éternel avec ta substance, avec les prémices de tout ton accroissement, ainsi tes greniers seront remplis de plénitude et tes pressoirs regorgeront de mou. Les prémices, les premiers fruits de tout ton accroissement, et donc cela va représenter à la fois la dîme et les offrandes. Honore l'Éternel avec ta substance et avec les prémices de tout ton accroissement. Tout ce qui a accru dans ta possession, c'est sur cela que tu prends la dîme et les offrandes. Comprenez? Et les offrandes peuvent venir de n'importe où, mais la dîme tout particulièrement vient et doit être tirée de tout ce qui nous a été accru. L'accroissement, notre revenu. Ainsi dit-il. Dieu n'est pas obligé de dire cela, mais il le dit parce qu'il montre que l'obéissance est récompensée dans la parole de Dieu et dans le gouvernement de Dieu. Il dit, « Ainsi tes greniers seront remplis de plénitude et tes pressoirs regorgeront de mou. » C'est intéressant parce que vous pourriez penser en tant qu'être humain, déchu et pécheur, mais il ne faut pas promettre, parce que si tu promets ensuite, ils vont faire ça pour ça. Que vous promettez ou pas, nous avons toujours des mauvais motifs qu'il nous faut sans cesse examiner. Mais Dieu est le Dieu qui récompense la foi et l'obéissance. Comme c'est marqué, je crois, dans Hébreux chapitre 11, il me semble. Allons-y brièvement. J'aime bien rendre les choses encore plus spirituelles. Qu'elles ne le sont déjà, a fortiori, c'est très spirituel la dîme si nous l'examinons comme il se doit. Hébreux chapitre 11, il me semble. Voilà, c'est écrit ici dans Hébreux chapitre 11, verset 6. « Mais sans la foi, c'est impossible de lui plaire à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu est et qu'il est un rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment, avec assiduité. » Dieu est un rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment et de ceux qui également lui obéissent. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Allez maintenant avec moi dans Malachie chapitre 3, verset 8 et 10. Où nous continuons sur ce principe de la dîme. Malachie chapitre 3, verset 8 à 10. Je lis, c'était notre lecture biblique. L'homme dérobera-t-il Dieu, demande-t-il. Car vous m'avez dérobé, comme c'est marqué dans la Bible King James, et vous dites, en quoi t'avons-nous dérobé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Vous êtes frappés de malédiction et vous me dérobez, vous, la nation entière. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor et qu'il y ait de la provision dans ma maison. Et éprouvez-moi en cela, dit l'Éternel des armées, si je ne vous ouvre pas les écluses du ciel et si je ne répands pas sur vous la bénédiction sans mesure. Donc, la question à laquelle nous voulons répondre ici, nous avons compris le principe de la dîme dans Deutéronome 14 et Proverbes chapitre 3. Ce sont les passages de base. Et la question à laquelle nous voulons répondre désormais, c'est où dirigeons-nous la dîme? Donc nous savons que Dieu nous demande de lui rendre la dîme, parce que comme nous allons le voir, la dîme lui appartient. Mais où devons-nous diriger la dîme? C'est la question qui est importante et qu'il nous faut souligner ici. Il dit, je répète au verset 10, « Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor et qu'il y ait de la provision dans ma maison. » Donc, quelle est la réponse? Où apportons-nous et devons-nous apporter la dîme? Sachant que Dieu nous demande de lui apporter cette dîme. Je lis dans la maison, à la maison du trésor. Vous le lisez ici au verset 10? Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor. Et donc là, ici, nous voulons comprendre qu'est-ce que la maison du trésor et comment est-ce que nous pouvons appliquer ce terme à notre époque, parce que nous ne vivons plus à la même dispensation, toutefois, comme nous le voyons ici à travers la parole de Dieu, et comme nous allons le voir à travers l'esprit de prophétie, comme nous l'avons vu juste avant, le même principe de la dîme s'applique également à notre époque, et j'aimerais ici l'expliciter par la déclaration suivante, qui se trouve dans Conquérant Pacifique, à la page 67 et paragraphe 2. Par rapport à cette maison du trésor, n'est-ce pas? Si les dons affluaient dans le trésor, selon le plan divinement établi, tirait un dixième de tous les revenus, plus les offrandes volontaires, il y aurait abondance d'argent pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Que dit-elle? C'est important les mots. Si les dons affluaient dans le trésor. C'est Sœur White ici qui parlait, sous l'esprit d'inspiration, et elle parlait au temps présent, et elle disait que les dons étaient envoyés où? Donc, elle parlait d'affluence, qui n'était pas forcément existante, mais si les dons affluaient, où est-ce que les dons affluaient? Où est-ce que les dons étaient dirigés, à la fois les dîmes et les offrandes volontaires? Dans le trésor, ou littéralement en anglais, the treasury, ce qui pourrait être traduit aussi, pas simplement le trésor, mais la trésorerie. Donc, à travers cette compréhension très très brève, et cette brève citation, nous voyons que le terme « la maison du trésor » est assimilé ici par l'esprit de prophétie au trésor, ou à savoir à la trésorerie de l'Église. Vous comprenez? Et allez ici avec moi pour élargir cela et affermir cette affirmation que nous avons trouvée dans la parole de Dieu, dans le passage de Néhémie, chapitre 10. Néhémie, chapitre 10, versets 38 et 39. Néhémie, chapitre 10, verset 38. « Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites lorsque les Lévites paieront la dîme, et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu dans les chambres de la maison du trésor, car les enfants d'Israël et les enfants de Lévi doivent apporter dans ces chambres l'offrande du blé, du vin et de l'huile, etc. » Est-ce que vous voyez quelque chose ici? Donc, selon ce passage, nous voyons que tous apportent leur dîme où? À la maison de Dieu, plus encore, à la maison du trésor. Vous le voyez ici? Le sacrificateur sera avec les Lévites lorsque les Lévites paieront la dîme et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Si vous comprenez bien ici comment cela fonctionnait, du temps des Hébreux et des enfants d'Israël, dans le désert et en Palestine, à la fois dans le temple lorsque c'était le tabernacle en tente et le temple physique en pierre, les Lévites vivaient de la dîme, mais lorsqu'ils recevaient la dîme, ils payaient également la dîme de cette dîme. Donc, à savoir, à la fois les enfants d'Israël et les Lévites payaient leur dîme. Vous voyez ce que cela veut dire? Et où la payaient-ils, comme je viens de le dire? Ils apportaient la dîme à la maison de notre Dieu dans les chambres de la maison du trésor. Donc, si vous avez suivi ici, je fais un récapitulatif. Nous voyons donc, par ce que nous avons lu ici, que le même principe de la dîme et des offrandes pratiqué du temps des Hébreux, des enfants d'Israël, se poursuit dans la dispensation chrétienne où la trésorerie est à l'Église organisée de Dieu, ce que la maison du trésor était à la maison de Dieu, à savoir au temple de Dieu de leur temps et de leur époque des Hébreux. Et nous voyons également que les pasteurs et les ouvriers bibliques sont à l'Église ce que les Lévites étaient au temple. Vous voyez la comparaison ici, le parallèle, je devrais dire. Maintenant, nous voulons aborder ce que j'ai exprimé comme le dilemme. Donc, nous venons de faire un survol, bref, à la fois du principe de la dîme et par rapport à ce principe de l'endroit où nous devons diriger notre dîme, à savoir où est-ce que nous devons apporter notre dîme. Nous venons de le voir, ça doit être à la maison du trésor, ce qui de nos jours peut être assimilé au trésor, comme c'est marqué dans l'esprit de prophétie, ou littéralement à la trésorerie, c'est-à-dire que dans un fonctionnement organisé comme cela devrait être, nous allons à l'église de Dieu et nous amenons notre dîme au Seigneur dans le trésor, à savoir à travers la trésorerie et le trésorier. Parce qu'il y a quelqu'un qui est, comme c'est marqué, je crois, dans Néhémie chapitre, je crois que c'est 1 Chronique chapitre 26 verset 20, et ensuite 2 Chroniques chapitre 31 verset 11, et ensuite Néhémie chapitre 13, c'est autre chose, où on voit qu'il y a quelqu'un qui est préposé sur la maison du trésor, qui a la responsabilité. Et ça, dans notre fonctionnement moderne, et comme c'était le cas dans l'Église adventiste du septième jour, ce n'est autre que le trésorerier. Voilà. Donc maintenant que nous avons revu cela, hein, je ne prétends pas à faire une étude exhaustive de la dîme, simplement nous voulons nous concentrer sur autre chose, quelque chose de plus précis, à savoir le dilemme. Parce que le fait est, frères et sœurs, que nous ne vivons pas aujourd'hui au temps de Moïse, ni au temps de Néhémie, ni même au temps de l'Église primitive de Christ, ni même au jour de l'adventisme primitif, du temps de Sir White, avant sa mort. Nous ne vivons plus dans aucune de ces époques-là. Les circonstances ont changé. Je dis cela. Toutefois, nous maintenons, bien entendu, à travers la parole de Dieu que nous venons de lire et les déclarations de l'esprit de prophétie que nous avons déjà contemplées et d'autres que nous allons voir en plus, nous maintenons que le principe de la dîme et des offrandes est le même et que la dîme et les offrandes doit être dirigée au même endroit, selon ces mêmes principes-là que nous venons d'étudier. Seulement, les circonstances ont changé et il nous faut aborder un certain dilemme, et c'est celui-ci. Allez avec moi dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, versets 3 à 5 tout d'abord. Le verset 3 nous permet de voir le contexte des paroles qui suivent de Jésus et par rapport à quelle époque. Et à quelle époque nous pouvons appliquer, et ces paroles-là sont applicables de Jésus. Matthieu chapitre 24, verset 3, je lis. Et s'étant assis sur la montagne des Oliviers, les disciples vinrent à lui, à Jésus, en particulier disant, Dis-nous, quand ces choses arriveront-elles? Et quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde? Et Jésus répondant leur dit, Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant, Je suis le Christ, et ils en séduiront plusieurs. Ensuite, versets 23 et 24. Alors, si quelqu'un vous dit, Le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez point, car de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront et montreront de grands signes et des prodiges en sorte de séduire les élus même si c'était possible. Donc, quel est le dilemme dans ces circonstances changées des derniers jours avancés dans lesquels nous vivons aujourd'hui? Quel est le dilemme? Nous venons de le lire, des faux prophètes verraient le jour dans les derniers jours. Il y aurait des faux prophètes. Jésus disait, de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront et montreront de grands signes et des prodiges en sorte de séduire ou de tromper les élus mêmes, si c'était possible. Et c'est important ici, il nous faut relever les paroles que Jésus disait lorsqu'il disait, alors si quelqu'un vous dit, Le Christ est ici, ou le Christ est là, ne le croyez point. Et cette déclaration, nous avons peut-être eu la tendance de la lire dans le sens, il y aura beaucoup de personnes qui seront des imposteurs de Christ. Donc ils diront, je suis Jésus-Christ, je suis lui, je suis lui, je suis lui. Et en effet, il y a eu des personnes comme ça, et probablement encore aujourd'hui, il y a des personnes qui ont le souffle de vie dans leurs narines et qui disent et qui affirment cela. Toutefois, c'est important de mentionner ici et de bien comprendre que ce n'est premièrement pas ce à quoi Jésus fait allusion. Quand Jésus dit, il y aura des personnes qui disent, le Christ est ici, ou il est là, ne les croyez point, ce qu'il voulait dire, c'est, il y aura des personnes qui disent, je veux dire ce qu'il voulait dire pris en premier, ce n'était pas qu'il faisait mention de tous ces personnes sectaires, pas principalement, c'est qu'il disait, il y aura des personnes qui diront, Christ est ici, Dieu est ici, c'est ici le corps, l'Église de Christ. Vous comprenez? Et quel est le rapport avec la dîme ici? Entre ceci et ce dont nous étions en train de parler sur la dîme. Allez avec moi dans le passage de Lévitique, dans le Lévitique, chapitre 27. Donc Jésus disait, dans les derniers jours, faites attention. Beaucoup diront que Christ est là. Lévitique chapitre 27, verset 30. Ça ne veut pas dire que Jésus disait il y aura des personnes qui diront qu'ils sont le Christ. Pas forcément. C'est plus spirituel encore. Il y aura des personnes qui diront Christ est là, c'est l'Église de Christ. Nous marchons avec Christ. Lévitique chapitre 27, verset 30. Dieu ici nous dit ceci. Voilà le rapport que cela a avec la question de la dîme et des offrandes. C'est lié. C'est inséparable en fait. Parce que les deux doivent aller à la maison du trésor. Je lis dans Lévitique chapitre 27, verset 30. Dieu dit, toute dîme de la terre, tant des semences de la terre que des fruits des arbres appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Qu'est-ce que c'est? À qui appartient la dîme? Je lis ici que toute dîme, la dîme, toute dîme, de la terre, tant des semences des arbres que des fruits des arbres appartient à l'Éternel. La dîme appartient à l'Éternel. Et donc, lorsque nous payons notre dîme, nous rendons à l'Éternel ce qui est à lui. Vous voyez? Si nous nous contentons de lire ces paroles telles qu'elles sont écrite ici, la dîme appartient à l'Éternel. Donc la dîme ne nous appartient pas. Donc, si nous lisons la parole de Dieu telle que c'est écrit ici, donc lorsque nous recevons quelque chose, lorsque nous avons notre accroissement, un dixième de cet accroissement ne nous appartient pas. Vous comprenez? Le dixième de tout ce que nous recevons dans nos revenus ne nous appartient pas. Pourquoi? Parce que la dîme appartient à l'Éternel. Vous comprenez? Alors bien entendu, vous pourrez me dire, oui, mais rien ne nous appartient parce que tout est à Dieu. Absolument. Mais, strictement parlant, il y a des choses que nous pouvons utiliser dans certains, à la gloire de Dieu, mais il y a une portion qui s'appelle la dîme qui appartient à l'Éternel dans le sens où ça doit lui être rendu et ça doit être amené à la maison du trésor. Vous comprenez? En ce sens-là, La dîme appartient exclusivement à l'Éternel pour un usage exclusif, un lieu exclusif. Vous voyez? Et maintenant, vous me demanderez, mais pourquoi cela est-il important? Et pour répondre à cette question, je vous renvoie à cette autre question. Qu'est-ce que Jésus a dit de lui-même? Allez avec moi dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, versets 56 à 59. Jean chapitre 8, versets 56 Jésus parlait avec les Juifs, ils avaient un échange long en lien avec Abraham et leur relation à Abraham et les œuvres d'Abraham, etc. Nous n'allons pas rentrer dans ces détails-là. Par contre, je vais commencer au verset 56 pour le contexte. Jésus disait « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour et il l'a vu et il s'est réjouit. » Les Juifs donc lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Alors ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple, passant au milieu d'eux, et ainsi il s'en alla. Qu'a dit Jésus? Avant qu'Abraham fût, je suis. Quelle allusion forte et lourde de sens Jésus faisait-il ici, quand il disait cela? Pour répondre à cette question, nous voulons nous tourner vers les paroles d'Exode chapitre 3. De quoi Jésus parlait-il? À quoi faisait-il allusion quand il exprimait ces paroles qui ont poussé les Juifs à chercher à le lapider? Exode chapitre 3, versets 13 à 15, je lis ce qui suit. C'était dans cet épisode du buisson ardent face auquel Moïse s'était retrouvé confronté. Moïse avait trouvé, comme c'est marqué au verset 2, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu du milieu d'un buisson et il regarda et voici le buisson était tout en feu, mais le buisson ne se consumait point. Alors Moïse dit, je me détournerai et je verrai cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour regarder et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Et Dieu dit, n'approche point d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte, etc. Maintenant, nous continuons au verset 13. Donc, Dieu était en train ici de dire à Moïse qu'il allait l'envoyer vers les enfants d'Israël parce qu'il avait entendu le cri de ses enfants en Égypte, etc. Et verset 13, Moïse dit à Dieu, « Voici, j'irai vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me disent, quel est son nom? Que leur dirai-je? » Moïse disait, oui, je veux bien, d'accord, mais comment tu t'appelles? Quel est ton nom? Verset 14. Alors Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Puis il dit, tu diras ainsi aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu diras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom éternellement, c'est là ma commémoration dans tous les âges. Ce que vous avez relevé ici, l'élément assez déterminant, lorsque Jésus disait « Avant qu'Abraham fût, je suis », de quoi parlait-il ? À quoi faisait-il allusion ? À ces paroles de Dieu à Moïse lorsqu'il lui a dit son nom. Je suis celui qui suis. Qu'est-ce que c'est ? Je suis l'Éternel. C'est le même mot ici qui est interchangé en français et qui est toujours le même à travers le texte massorétique, à savoir Yahvé. C'est le tétragramme qui veut dire ce qui est exprimé au verset 14, je suis. À savoir que Dieu est passé, présent et futur. Il est ce que nous appelons dans notre Bible française l'Éternel. Dans la Bible anglaise, le mot est changé par the Lord, le Seigneur. Comme c'est marqué aussi dans les Bibles catholiques, si je ne m'abuse. Donc, parce que, et dans d'autres Bibles, à la place de l'Éternel, il y a Yahvé. Et dans la Bible des témoins de Jéhovah, ce mot est interchangé par Jéhovah. Vous comprenez ? Donc, lorsque Jésus disait « Avant qu'Abraham fût, je suis », que disait-il ? Eh bien, nous l'apprenons à travers les paroles de Jésus lors d'un autre épisode, une autre altercation qu'ils avaient avec lui dans Jean chapitre 10, verset 32 à 33. Jésus leur disait, verset 32, Jésus leur dit, « J'ai fait devant vous plusieurs bonnes œuvres de la part de mon Père. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous ? » Verset 33, « Les Juifs lui répondirent, disant, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que, étant homme, tu te fais Dieu. » Vous comprenez ? Donc, pourquoi est-ce qu'ils avaient cherché à lapider Jésus dans l'épisode précédent de Jean chapitre 8, versets 58 et 59 ? Pour un blasphème, parce que, étant homme, disait-il, tu te fais Dieu. Donc lorsque Jésus disait, avant qu'Abraham fût, je suis, que disait-il ? Il dit, je suis l'Éternel. Vous comprenez ? Jésus disait, je suis celui qui suis. Vous discernez ici. Donc, je suis égal l'Éternel et Jésus est l'Éternel. Et donc maintenant que nous venons de voir cet échange de termes ici, ceci nous amène, on pourrait dire, au cœur de ce sujet, de cette méditation. Parce que la dîme donc appartient à Jésus. Parce que nous avons lu, la dîme appartient à l'Éternel. Et Jésus a dit, je suis l'Éternel. C'est d'ailleurs pour ça que les Juifs avaient cherché à le lapider, parce qu'ils avaient très bien compris ce qu'il voulait dire. Vous voyez ? Les Juifs, ils avaient compris. Donc des fois, nous ne comprenons pas, mais les Juifs avaient compris. Et donc, la dîme, si Jésus est l'Éternel, la dîme appartient à Jésus. Et la maison à laquelle nous apportons la dîme doit être la maison de Jésus. Mais comment pouvons-nous déterminer cela ? Allez avec moi dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Cette étude est indispensable et ce fil ici, avec dont chaque chaînon, chaque anneau est indissociable les uns des autres, Jean chapitre 14, verset 6. Comment est-ce que nous pouvons déterminer que la maison à laquelle nous apportons la dîme est bien la maison de Jésus? Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit à Thomas, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Qu'est Jésus? Jésus est le chemin, il est la vie, oui. Mais Jésus est également la vérité. Jésus n'est pas une vérité. Jésus est la vérité. Et nul ne vient au Père que par lui. Et comment cette nature de Jésus qui est la vérité, qui est la vie, la résurrection, mais qui est aussi la vérité, comment est-ce que cela est reflété dans sa maison? Parce que nous avons vu juste avant que la dîme doit être... Je récapitule, hein, pour pas que nous oublions. Nous avons vu que la dîme doit être amenée à la maison de Dieu, plus précisément dans les chambres de la maison du trésor. Nous avons vu que l'équivalent de notre époque, et comme c'était pratiqué du temps des Adventistes, c'est que ce doit être amené au trésor de l'Église. Ou autrement dit, un autre mot, à la trésorerie. C'est-à-dire par l'entremise du trésorier, tout simplement. Nous avons suivi ici le plan ordonné divinement. C'est comme ça que c'était du temps des Hébreux, c'est comme ça que cela fonctionne du temps de l'Église de Christ. Et donc, nous venons de voir que Jésus est l'Éternel, et donc que la dîme qui nous avons lu appartient à l'Éternel, lui appartient donc, parce qu'il était celui qui parlait à Moïse. Parce qu'il a la vie, il est la vie, il est la vie éternelle. Il n'est pas la vie temporaire, éphémère. Jésus est la vie éternelle. Jésus est, comme c'est marqué dans les psaumes, je crois, d'éternité en éternité, je suis Dieu. C'est lui qui dit cela également. Comment je sais? Parce que nous venons de le voir. Jésus disait, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc ça veut dire qu'avant qu'il soit né dans la chair, il existait déjà. Il n'y a pas d'autre moyen de le lire. Vous comprenez? Et donc, si Jésus, comme nous venons de le voir dans Jean chapitre 14, verset 6, est bel et bien la vérité, en effet nous le croyons parce que c'est écrit ainsi, comment cela est reflété dans sa maison? Allez avec moi dans 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3 et verset 15. Le contexte, verset 14, l'apôtre Paul disait « Je t'écris ces choses espérant d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment tu devrais te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et la base de la vérité. » Qu'est-ce que c'est? Qu'avons-nous relevé ici? La maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, est la colonne et la base de la vérité. Vous le notez ici, frères et sœurs? Quelle doit être la maison de Dieu? Comment est-ce que le fait que Jésus est la vérité est reflété? Comment ce fait-là, cette réalité-là, est reflétée dans sa maison? Parce que nous devons amener notre dîme à la maison du trésor, à la maison de l'Éternel, dans les chambres de la maison du trésor. Et comment est-ce que le fait que Jésus est la vérité est reflété dans sa maison? Parce que l'Église de Dieu est la colonne et la base de la vérité. J'ai lu une déclaration qui était assez intéressante, qui aide à comprendre cela, c'est que l'Église est fondée, et plutôt, littéralement, c'est l'Église est le fondement de la vérité et l'Église soutient la vérité. Donc vous avez un fondement, l'Église est la base. La base, c'est le fondement, c'est la même chose, c'est synonyme. Ensuite, l'Église est également la colonne. Donc l'Église est la base, l'Église est la colonne, l'Église est fondée sur la vérité et l'Église soutient la vérité. Vous voyez? Donc l'Église fonctionne basée sur la vérité, uniquement la vérité. Et l'Église maintient la vérité et soutient toutes les personnes qui sont en harmonie avec la vérité. Vous comprenez? Ça fait comme un temple, les anciens temples grecs, avec les bases et les colonnes. Tac, tac, tac. Je trouvais ça assez intéressant, la façon dont c'était exprimé. Ça permettait de visualiser l'image qui nous est transmise par la parole de Dieu. Et donc, frères et sœurs, maintenant que vous réfléchissez avec moi, vous êtes en train de faire le lien entre 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D, E, F, G, I, E, F, G, H, I, J, K, L. Si donc, suivez la logique ici, le raisonnement. Si donc je désire, en acte d'adoration, parce que c'est bel et bien un acte d'adoration, parce que lorsque nous rendons notre dîme à Dieu, nous sommes en train de reconnaître intérieurement que nous sommes en train bel et bien de rendre notre dîme à Dieu. Parce que nous croyons par l'acte de la foi, comme nous avions vu dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Si donc je désire en acte d'adoration rendre ma dîme à Dieu, eh bien, en tant qu'adorateur, en tant que vrai adorateur, comme Jésus en parlait à la femme samaritaine, que je veux être, je dois m'assurer de l'amener à sa maison, son église sur la terre, qui est la colonne et la base de la vérité. Vous notez ici que c'est important de noter qu'il n'y a pas marqué qui peut être ou qui sera ou qui était la colonne de la base de la vérité. C'est pas ça qui est marqué. Qui est? Je lis comme c'est marqué. Afin que tu saches, si je tarde, comment tu devrais te conduire dans la maison de la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et la base de la vérité. Voyez, entre chacune de ces expressions, de ces clauses, il y a une virgule. En langue française, lorsque vous mettez une virgule comme cela dans une liste, comme c'est marqué ici dans ce contexte, ça veut dire que chaque expression est synonyme l'une de l'autre. Qu'est-ce que c'est? La maison de Dieu, l'église du Dieu vivant, la colonne et la base de la vérité. Ces expressions sont interchangeables. Comme ça, si vous parlez de la maison de Dieu, vous savez que vous êtes en train de parler de l'église de Dieu. Si vous parlez de l'église de Dieu, vous savez que vous êtes en train de parler de la colonne et de la base de la vérité. Ces choses-là sont synonymes dans la parole de Dieu, selon la Bible. Et c'est là que nous sommes en train de rentrer bien plus profondément dans le vif du sujet en comparant ce que nous sommes en train d'étudier à la réalité des derniers jours vis-à-vis desquels Jésus avait dit et que Jésus avait exprimé par ses paroles de faux Christ et de faux prophètes verront le jour, se révéleront et il y aura beaucoup qui viendront et qui diront « Christ est ici, le Christ est là ». Mais que disait Jésus? Jésus disait, ne les croyez point. Ne les croyez pas juste parce qu'ils le disent. Vérifiez si c'est bien ma maison. Comment est-ce que nous pouvons déterminer cela? Si c'est la vérité. Parce que c'est à cela que nous savons si c'est vraiment bien, bel et bien l'église du Dieu vivant, la maison de Dieu. Si la vérité, si c'est la vérité qui est enseignée, et si ce n'est que la vérité. Car comme nous allons le voir ici, plutôt avant que nous y allions, j'aimerais faire une brève parenthèse pour dire ceci ici. Notez ici, frères et sœurs, que la dîme ne peut être... C'est important de noter ici, parce que certaines personnes... Enfin, j'ai remarqué qu'il y a comme une fuite de la logique à travers laquelle il y en a beaucoup qui perdent il y a une fuite qui fait que certains perdent un peu pied sur ce sujet. Notez ici, frères et sœurs, que la dîme ne peut être envoyée à des individus. selon ce que nous venons de lire, ou bien même à un groupe de personnes, quelconque, ou bien même aux veuves et aux indigents. Comment nous savons cela? Parce que nous venons de lire. Rendre sa dîme à Dieu, c'est l'amener à la maison du trésor, ce qui implique une organisation. Vous comprenez? Donc un individu, ce n'est pas une organisation. Il faut qu'il y ait une organisation, quand bien même aussi petite soit-elle. Il faut qu'il y ait une organisation et qu'il y ait la vérité pour que cela puisse constituer la maison de Dieu et qu'il puisse y, ensuite y avoir dedans la maison du trésor. Vous voyez? Il faut que toutes ces conditions préalables soient remplies pour que nous puissions, en tant que vrais adorateurs de Dieu, l'adorer en esprit, en vérité, intelligemment, et venir lui rendre ce qui est à lui. Et donc, comme je le disais, rendre sa dîme à Dieu, c'est l'amener à la maison du trésor, ce qui implique une organisation dans l'Église qui est la colonne et la base de la vérité. Et maintenant, à la lumière de tout ce que nous venons de contempler aujourd'hui, frères et sœurs, tous ces passages bibliques que je vous ai présentés, que nous avons explorés, la question que nous devrions donc nous poser, c'est: est-ce la vérité? Est-ce vrai? Dans quelque relation que nous ayons à quelque organisation que ce soit, la question que nous devons nous poser à chaque instant, notamment vis-à-vis, dans toute notre relation avec quelque individu que ce soit, et notamment quelque église que ce soit, et a fortiori vis-à-vis de ce que nous faisons avec la dîme du Seigneur, la question que nous devrions nous poser, c'est: est-ce la vérité? Allez avec moi dans 1 Jean chapitre 2, verset 21. Nous sommes en train vraiment d'arriver au point culminant de cette étude où toutes les choses que nous avons accumulées dans notre méditation de la parole de Dieu se rassemblent pour faire sens ici. 1 Jean chapitre 2, verset 21. Il y a un petit élément, une petite phrase que j'aimerais que nous relevions ici. 1 Jean chapitre 2, verset 21. Je lis. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce que nul mensonge ne vient de la vérité. C'est intéressant. Nul mensonge ne vient de la vérité. Il faut que nous contemplions brièvement cette pensée pour que nous arrivions à en retenir et en ressortir le sens. Parce qu'il peut nous arriver, frères et sœurs, de lire des choses et que ces choses-là nous passent par-dessus la tête et que nous croyons avoir compris la parole de Dieu et en fait il n'y a rien qui a pénétré. Lorsque la parole de Dieu nous dit que nul mensonge ne vient de la vérité, qu'est-ce que cela veut dire? Nous pourrons dire, ça veut dire ce qui est écrit. Sauf que nous n'avons pas réussi à en faire une application pratique. Nous avons juste répété. Nul mensonge ne vient de la vérité. Dites-moi, s'il y a un peu de mensonge, est-ce que cela vient de la vérité? Vous allez me dire non. Et donc, s'il y a un peu d'erreur, ou un peu de mensonge, parce que c'est synonyme dans la parole de Dieu, l'esprit de prophétie nous parle d'erreur, la parole de Dieu nous parle de mensonge, à savoir que tout ce qui n'est pas vérité est un mensonge. Des fois, on pourrait se dire, oui, mais ces gens-là, c'est pas volontaire, ils ont juste fait une erreur. Oui, mais c'est un mensonge. Si ce n'est pas la vérité, c'est un mensonge. Et la parole nous dit que nul mensonge ne vient de la vérité. Donc je reprends mon raisonnement. S'il y a un peu d'erreur et beaucoup de vérité, il y a beaucoup de vérité, beaucoup, beaucoup, beaucoup. S'il y a un peu d'erreur, un tout petit peu, et beaucoup de vérité, dites-moi, est-ce la vérité? Est-ce la vérité? C'est ça que nous voulons savoir. Vous allez comprendre pourquoi. Si cela ne vous est pas déjà venu à l'esprit. Allez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 5 brièvement.
un peu d'erreur. C'est juste un peu. 1 Corinthiens chapitre 5. Et d'autant plus, ça se trouve, c'est même pas volontaire. C'est même pas volontaire, mon frère.
1 Corinthiens chapitre 5, verset 6. Où il dit, votre vanterie n'est pas bonne. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purgez donc le vieux levain afin que vous soyez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain. Car même Christ, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. C'est pourquoi célébrons la fête, non avec le vieux levain, ni avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. Pour que ce soit la vérité, qu'est-ce qu'il faut que ce soit? Sans levain. Et s'il y a un peu d'erreur, un peu de mensonge, qu'est-ce que cela va faire à la vérité? Que nous dit l'apôtre? Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Donc s'il y a un peu d'erreur et beaucoup de vérité, qu'est-ce qui va arriver à cette vérité? Selon ce que je viens de lire ici, toute la pâte va être levée. C'était la vérité. Maintenant, à cause de l'erreur, qu'est-ce que cela devient? Du poison. Qu'est-ce que c'est? Du poison. N'est-ce pas ce que la parole de Dieu nous enseigne, frères et sœurs? Si donc, ce n'est pas la vérité, à qui suis-je en train d'envoyer ma dîme? Jésus a dit, nous revenons ici, nous sommes en train de faire maintenant un flashback sur tout ce que nous venons d'étudier et de contempler. Jésus a dit, avant qu'Abraham fût, je suis celui qui suis. Dis aux enfants d'Israël, je suis m'a envoyé à vous. Dis-leur, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'a envoyé à vous. Jésus avait dit juste avant, Jean chapitre 14, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Dans Lévitique chapitre 27, verset 30, nous lisions que « Toute la dîme de la terre, tant de la semence de la terre que du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. » C'est une chose consacrée à l'Éternel. Jésus a dit « Je suis celui qui suis. Je suis, avant Abraham, je suis. Je suis l'Éternel. » Et donc, la dîme m'appartient. Je suis la vérité. Et donc, si la maison du trésor à laquelle j'envoie la dîme n'est pas en train d'enseigner toute la vérité, est-ce que Jésus est en train de recevoir ma dîme? Il a dit, je suis la vérité, la dîme m'appartient. La dîme appartient à l'Éternel. Jésus dit, je suis Dieu. C'est pour ça que les Juifs voulaient le lapider. Si je n'envoie pas ma dîme là où la vérité est enseignée, sans aucune erreur, est-ce que Jésus reçoit ma dîme? Est-ce que c'est un vrai acte d'adoration? Suis-je un adorateur? Comme Jésus en parlait à la femme samaritaine. Le temps vient qu'ils n'adoreront ni sur cette montagne, ni sur cette montagne, mais que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La dîme, c'est un acte d'adoration. Et si nous envoyons notre dîme là où Jésus n'est pas, à un endroit qui n'est pas sa maison, qui n'est pas la colonne et la base de la vérité, qui reçoit notre dîme? Et pour conclure notre méditation, frères et sœurs, j'aimerais lire cette citation qui est extraite du livre qui s'intitule « L'histoire du mouvement de réforme des Adventistes du septième jour » qui a été écrit et publié en 1925 à la suite de nombreuses péripéties de ses frères après avoir fait de grands efforts pour chercher une réconciliation avec les dirigeants de la conférence générale, notamment aux États-Unis, après avoir échoué grandement, avoir été allègrement repoussé et méprisé dans leurs attentes profondes d'une réconciliation, voilà une des nombreuses choses qu'ils avaient exprimées dans leur petit livret. Ils disaient ceci. Vis-à-vis ici, nous pouvons maintenant appliquer ce principe-là qu'ils expriment plus largement. Pour des raisons que vous qui avez étudié les paroles, les études précédentes que j'ai présentées sur la chute de cette autre ange pourront mieux comprendre. Nous pouvons appliquer ce principe d'une manière plus large encore, qu'ils appliquaient alors à leur époque, étant confrontés à ce à quoi nous sommes encore aujourd'hui confrontés à plus grande échelle. Il disait, je lis, non, nous conseillons à tous ceux qui souhaitent que leur dîme soit utilisée fidèlement de ne l'envoyer qu'à l'endroit où ils savent qu'on enseigne la vérité en harmonie avec la parole qui les a affranchis. Unissez-vous en compagnie efficace, ou plutôt unissez-vous en groupe efficace, même si vous n'êtes que deux ou trois, car le Sauveur a promis à ceux-là qu'il sera lui-même parmi eux. Que disait-il? Il disait, nous conseillons à tous ceux qui souhaitent que leur dîme soit utilisée fidèlement, de ne l'envoyer qu'à l'endroit où ils savent qu'on enseigne la vérité en harmonie avec la parole qui les a affranchis. Et pour conclure, j'aimerais lire la citation suivante qui se trouve dans Conseil à l'économe à la page 110, paragraphe 2. Donc ceci est un conseil qui s'applique tout particulièrement au pasteur. Mais je le lis parce que il renferme une vérité qui est intemporelle et qui, quoique ne s'applique pas tout particulièrement à moi, parce que qui suis-je, sans position, toutefois, le principe que cette déclaration renferme est valable pour nous tous. Je lis. Il incombe au ministre de l'Évangile d'enseigner à ceux qui acceptent la vérité à travers ses efforts qu'ils doivent apporter la dîme dans le trésor de Dieu en reconnaissant ainsi leur dépendance envers Dieu. Que les nouveaux convertis soient pleinement éclairés sur leur devoir de rendre au Seigneur ce qui lui appartient. L'ordre de payer la dîme est si clair qu'on est sans excuse si l'on néglige d'y obéir. Celui donc qui ne prend pas soin d'instruire les gens sur ce point laisse inachevée une partie essentielle de l'œuvre. La raison pour laquelle j'ai lu cette déclaration, frères et sœurs, comprenez-moi bien, c'est tout particulièrement la dernière phrase qui dit que celui qui ne prend pas soin d'instruire les gens sur ce point-là de la dîme laisse inachevée une partie essentielle de l'œuvre. Donc si cela ne dépendait que de moi, honnêtement, je préférerais garder ce sujet sous le silence. Seulement, le témoignage de Jésus nous dit clairement que ce serait laisser inachevée une partie essentielle de l'œuvre. Donc, en d'autres termes, ce ne serait pas dans l'intérêt réel du peuple de Dieu pour moi de garder sous silence ce sujet. Quand bien même, je préférerais ne pas en parler de peur que on m'impute de mauvais motifs. Vous comprenez? Je n'ai pas envie de parler de ce sujet. Pourquoi? Pour des raisons qui sont évidentes. Mais l'esprit de prophétie, la parole de Dieu, dans tout ce que nous avons lu, nous montre l'importance de ce sujet, frères et sœurs. La parole de Dieu contient Il nous présente cette puissance qui est contenue dans ce sujet et combien il est applicable pour nous. Et important de nous conformer à ces choses pour Dieu et pour sa cause. Qu'est-ce qui était marqué? Il incombe au ministre de l'Évangile d'enseigner à ceux qui acceptent la vérité à travers ses efforts qu'ils doivent apporter, que doit-il enseigner? Il doit leur enseigner qu'ils doivent apporter la dîme dans le trésor de Dieu, j'aime bien comme c'est marqué en anglais, en reconnaissance de leur dépendance envers Dieu. Vous voyez? L'acte de payer sa dîme, ce n'est pas juste une législation. Ça ne devrait pas être cela. Ce devrait être un acte d'adoration. Comment? En reconnaissance de notre dépendance envers Dieu. Cela contribue à cela, à ce que nous reconnaissons cela. Vous comprenez? Et l'inverse est également vrai. Nous devrions être pleinement éclairés sur notre devoir de rendre au Seigneur ce qui lui appartient. Vous voyez, maintenant, appliquez les principes que nous avons ressortis de la parole de Dieu à cette déclaration. Nous devons être pleinement éclairés sur notre devoir de rendre au Seigneur, à Jésus, qui est la vérité, ce qui lui appartient. Donc voilà, frères et sœurs, c'est ma prière que cette étude puisse avoir une valeur spirituelle, plus que ça ne représente pas une législation, mais une éducation, et que nous puissions vraiment en ressortir édifiés. Que le Seigneur vous bénisse, et puisse Dieu nous aider à en ressortir les leçons hautement spirituelles de notre dépendance envers Dieu. C'est ma prière. Au nom de Jésus. Amen.